Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben, j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, les grandes gueules.
Ça ne s'arrêtera pas. Les gens sont déterminés. Les gens iront jusqu'au retrait. Ça ne s'arrêtera pas.
J'ai pas envie que ça s'arrête, mais c'est vrai qu'on est un peu dans l'incompréhension et dans qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va faire la révolution? Est-ce que on a des possibilités? Qu'est-ce qu'on a les moyens en fait à notre disposition?
Que les gens sont déterminés. Donc il faut continuer. Et s'il faut continuer en bloquant l'économie, il va falloir bloquer l'économie parce que c'est ça dont Macron a peur quand même. Les gens ne vont pas pouvoir rentrer chez eux en disant c'est mort, on a perdu. Non, il faut qu'on tienne, ça va durer parce que les gens ont accumulé tellement de frustration, de mépris que c'est pas possible que ça se termine en autre bouddha comme ça.
Voilà, vous avez entendu des manifestants rassemblés du côté de la place Bellecour à Lyon faire part de leur mobilisation à continuer la lutte.
Alors on est à la veille d'une 10e journée de mobilisation. On attend aussi le verdict du Conseil constitutionnel. Alors visiblement, ça sera vers le 15 avril, donc il faut être un peu patient. Et en attendant, Emmanuel Macron, c'est intéressant, il tente de reprendre la main sans reculer, parce qu'il veut pas reculer, mais il veut apaiser. Alors c'est un peu le pari. Et alors il a survendu, l'Élysée a survendu sa rencontre avec Madame Borne à midi, comme s'il ne rencontrait jamais sa première ministre, on a l'impression. Même certains ont cru qu'il allait la virer. Tu sais, j'ai vu, certains ont dit ça, bon, elle va être licenciée. Non, il rencontre Elisabeth Borne pour élargir
pour la première fois,
pour élargir la majorité et travailler au réagencement de l'agenda parlementaire.
Donc, sur Tinder.
Il va recevoir tout le monde. Il veut recevoir les syndicats pour parler de tout, sauf de la réforme des retraites.
Ah ouais.
Donc, forcément, les syndicats lui ont dit non. Bref, il occupe le terrain. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à reprendre la main, là?
Mais Thomas en fait, Porcher. Macron, il a quand même trouvé le moyen d'exciter. Chaque fois qu'il prend la parole, il excite encore plus les gens. Parce que là, au début, il ne devait pas prendre la parole. Il y a eu cette prise de parole aux 13h. Il a mis tout le monde dans la rue. Encore plus, avec une intensité, je veux dire, une violence. Et ce qui s'est passé dans les bassines, on en parlait avant. Je pense que tout est un peu relié. Le climat social, c'est, voilà. Il y a eu ça. Madame Borne a pris la parole chez Horizon. Pareil, elle en a remis une couche.
Ah non, elle veut plus recourir au 49-3 en dehors des textes budgétaires, quoi.
Voilà, ouais, Non, mais voilà. Donc, il y a quand même. Donc non, je pense qu'il y a un vrai problème là. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron là, en réalité, il y a un moment, il va prier pour que le Conseil constitutionnel rejette la réforme. Oui, parce que moi, je pense que là, il va se dire.
Il va comment... surtout téléphoner à Laurent Fabius.
Voilà, comment sortir la tête haute. Non, mais si on pose les cartes, comment tu peux sortir comment tu peux sortir la tête haute sans reculer? En fait, lui, il va dire, moi, vous voyez, je respecte les institutions, contrairement à d'autres qui ne respectent pas les institutions. Moi, je les respecte. Il peut dire ça, je vois bien avec sa tête dire ça d'ailleurs. Moi je les respecte, il va dire ça. Il va dire donc le Conseil constitutionnel doit trancher. Le Conseil constitutionnel la retoque, il dit...
Tu crois vraiment qu'il va le retoquer?
Il dit,
c'est très rare, c'est très rare.
Partiellement. Faire une loi en 47.1 budgétaire sur quelque chose qui engage en fait des réformes sur plusieurs années, c'est plutôt une loi de programmation. Oui. Donc tout est possible. Je veux dire, là, la Constitution a été utilisée de manière opportuniste, nous sommes tous d'accord.
Oui.
Donc là, il la rejette.
Retoquer l'intégralité
et Macron
réforme.
Dit, moi j'ai fait ce que je devais faire, je respecte les institutions... Tout le monde se calme, c'est fini, au revoir monsieur, comme Hollande avec les 75% d'imposition, et voilà, et tout le monde est content. Tout le monde a joué son rôle et c'est très bien. Et donc je pense que la voie de sortie, en fait, que Macron va... Même si je ne connais pas psychologiquement, je pense que sa psychologie, c'est de vouloir mettre à genoux les Français. Mais je me dis que ça, ce serait une voie de sortie... apaisé pour tout
pas
le monde.
Peur,
tout le monde reprend son travail, tout va bien.
À genoux pour prier, peut-être.
Je sais pas si Macron est si dominateur que le dit Thomas.
Oh, les mineurs avec Thatcher, tu vois, je pense que c'est un peu la même chose, Macron. Là.
C'est Thatcher, moi.
Voilà.
Écoute, moi, je pense que son péché originel, c'est d'avoir négligé le fait que les Français sont un peuple très profondément égalitaire. Et il les a gouvernés comme si les Français étaient des Américains ou des Anglais, c'est-à-dire des citoyens résolus aux inégalités, résignés presque aux inégalités. Et il a conduit une politique qui même affichait un certain dédain pour les gens qui rament, les gens qui ne sont rien, comme il avait dit, les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et une survalorisation de ce qu'il a appelé les premiers de cordée.
La France qui va bien.
Qui ne méritait ni une telle valorisation intellectuelle, ni des politiques systématiquement en leur faveur. Je suis pas sûr que la flat tax, qui est en fait un cadeau aux gens qui possèdent des actions, qui ont des revenus financiers, était très utile. Franchement, c'est le libéral qui vous parle. Je pense que cette hyperclasse financiarisée, c'est pas la peine de lui faire des cadeaux en plus de celles qu'elle arrive déjà très bien à se faire toute seule. Et c'est pas ça qui vous rend le pays plus attractif. Et donc, je trouve que n'ayant pas donné de gage de justice, donné de signe qui gouvernait pour tous les Français et pas seulement pour les inclus, je crois que c'est Thierry Solaire lui-même, qui est un conseiller d'Emmanuel Macron, qui a dit qu'en fait, la Macronie, c'était simplement le camp des inclus et qu'il fallait pas aller chercher plus loin. Eh ben, ça l'empêche de faire des réformes aussi dérisoires, à mon sens, que cette réforme des retraites. Puisque moi, je continue à penser que cette réforme des retraites, il faut la faire. Et que, par ailleurs, les Français qui ont soif de justice, ils ont aussi, à mon sens, un vrai problème avec le travail qui est en train de s'enquister dans un pays où les gens, en fait, ne veulent plus bosser, ou en tout cas diabolisent le travail. Et diabolisent, par exemple, le fait de devoir bosser 2 ans de plus pour financer leur retraite. Je pense qu'il a mal pris le truc depuis le début. Et je rejoins Thomas sur la porte de sortie du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel lui fait une censure, imaginons il y a une censure partielle.
Oui, mais pas les 64
ans. Il prend le petit bout qui est censuré. Là-dessus, il fait un truc full CGT sur le petit bout qui est censuré. Et il peut éventuellement.
Mais c'est les 64 ans qui. C'est pas l'index senior qui met les gens dans la rue. Donc il va pas reculer.
Enfin, moi, il y a pas mal de choses qui sont réelles, peut-être vraies, dans la façon dont Emmanuel Macron parle aux Français. Et les Français sont très sensibles à ça. D'ailleurs, ils sont très sensibles à la forme et pas du tout sensibles au fond. On voit bien avec Jacques Chirac, avec Sarkozy, etc., comment les Français peuvent détester quelqu'un sur un mot, sur une façon de faire, etc. Objectivement, Emmanuel Macron a été très vite le président des riches, le banquier, le président Rothschild. Ça a même été jusqu'à quand même parfois des dérapages antisémites, etc. Mais quand même, il a été très vite le président des riches. Or, quand on regarde de très près, si on se donne la peine de regarder de très près un certain nombre de mesures, et justement sur la réforme du travail et du plein emploi, il y a une réforme qui va arriver concernant le RSA. Parce que l'objectif, c'est le plein emploi, justement, devrait permettre de sortir des gens du RSA. Personnellement, je pense pas que ce soit un président de droite qui alimente la caste des riches. Et quand bien même il le ferait, je pense que c'est un président qui a dans son autre tirette beaucoup de choses au niveau social. Je peux donner des exemples très concrets. Par exemple, sur l'insertion des 16-25 ans. Tout le monde a fait haro sur le RSA ou RMI, enfin anciennement RMI, RSA, et pourtant il est en vigueur. Tout jeune qui est sans emploi, par le biais des missions locales, il a à peu près 500-600 euros par mois en accompagnement, sans distinction. C'est quand même un RSA déguisé pour les moins de 25 ans. Il y a énormément de petites mesures comme ça que les gens se donnent pas la peine d'aller chercher.
Et oui, d'ailleurs, mais les gens continuent d'être mal payés.
Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut baisser les charges des entreprises. C'est encore un autre débat. Quand on voit que la façon dont ils gouvernent, c'est-à-dire que la façon dont ils gouvernent est complètement en décalage avec un certain nombre de mesures qu'il prend, sans compter que les Français, sur la réforme des retraites des 64 ans, tous occultent le fait que les 43 annuités font que, de toute façon, tout le monde serait parti après 64 ans, vu la génération à partir de 1970, dont très peu commencent à travailler à 16, 18 ou 20 ans.
D'accord, mais donc pour revenir là, quand même, ce qui est quand même paradoxal, c'est que j'entends Mme Borne dire il faut à tout prix que Laurent Berger revienne à la table des négociations. Mais donc non, le même qui a été méprisé, d'ailleurs, oui. Emmanuel Macron l'a taclé mercredi dernier.
C'est de labyrinthe, là. Il est dans
maintenant, deux, trois jours après, il faut que M. Berger revienne à la table des négociations.
Et voilà. Il est dans un labyrinthe, là, le président.
On ne peut pas dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, j'ai pas besoin des syndicats, ma réforme, je vais la faire.
Mais c'est évident.
Et tant pis, Laurent Berger, j'ai pas besoin de lui. Et puis maintenant, dire, il faut que Laurent Berger, parce qu'on voit bien la tactique, c'est de sortir Laurent Berger.
Il est piégé par sa femme.
Bien sûr. C'est le game changer. C'est le game changer,
Laurent Berger. Mais il est piégé. Il est piégé, le président est piégé par sa forme de gouvernance.
Macron, il a été taxé. C'est le même président qui nous a dit à chaque fois, je vais changer de méthode. Il le dit tous les six mois.
Mais parce qu'il est conscient.
Il avait dit, je vais changer de méthode.
Il a toujours la même méthode qui consiste quand même, à faire peur aux Français.
Oui.
C'est quand même, pour moi, c'est systématiquement le consentement par la peur. C'est-à-dire faire peur aux bourgeois, d'ailleurs, parce qu'ils sont leaders d'opinion et qui sont son électorat, et y compris des retraités. Quand il y a les gilets jaunes, il y a de tels débordements qu'il arrive derrière en disant maintenant il faut retour à l'ordre, fin de la récréation. Quand il y a le Covid, il gouverne par la peur. Et d'ailleurs, on a vu avec ce qui est sorti de ce qui s'est passé en Angleterre, les échanges internes au gouvernement anglais où on voyait bien qu'en fait il faisait peur au peuple pour imposer un certain nombre de mesures. Pendant le Covid, on a gouverné par la peur d'une manière hystérique.
Tu peux pas confiner la population sans la peur.
Même sur l'Ukraine, il jouait un peu sur la peur des Russes, etc.
Pour se faire réélire.
Tout en pensant que Poutine n'attaquerait jamais l'Ukraine.
Éviter de participer au débat. Et là, vous allez voir, moi je suis sûr que sur ce sujet-là aussi, il va jouer sur la peur. C'est pas par hasard qu'il va aux 13h.
L'ultra gauche l'aide.
Son interview.
J'ai toujours dit que l'ultra gauche,
mais bien sûr,
c'est utile, évidemment, du macronisme.
Mais là, ce que l'on voit, moi, ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est que là, il a parié sur la résignation au début, il s'est trompé. Là, il parie sur le pourrissement, mais quand on voit les sondages, c'est pas si évident.
Il parie sur les violences maintenant.
Voilà, exactement. Le pourrissement par les violences, qui fait que l'opinion publique va se retourner. Voilà. Mais pour le moment, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a une telle détestation autour d'Emmanuel Macron que l'opinion publique, elle en vient presque, dans certains sondages, à soutenir la radicalisation.
Non, on détestera le prochain.
C'est assez intéressant. Et en fait, Macron, pourquoi on l'a appelé le président des riches? Il y a eu le fait de son passé de banquier. Et avec des dérives que tu as bien fait de justifier sur il est tenu par Rothschild, qui était complètement hallucinante et qu'il faut condamner. Mais c'est surtout que la réforme qu'il a passée, la première, la plus urgente, c'est sous le conseil d'économistes, c'est la réforme de l'ISF. Est-ce qu'il y avait une urgence en 2017? Tu arrives dans les premiers mois à faire passer la réforme. Est-ce que c'était la vraie urgence du pays?
Qui est devenu IFI.
Oui, d'accord. Mais c'est une des premières choses. Oui.
Attends, et là, tu te dis. Sur le patrimoine
supprimé pour les gens qui ont du patrimoine financier.
Là, tu te dis que l'urgence du pays, c'est de faire une réforme qui va toucher 1% de la population. Parce que c'est ça, qui détient 25% du patrimoine.
Quoi qu'il en coûte.
Depuis, il y a eu ça. Mais bien sûr.
Mais Sarkozy avait fait la même erreur avec le bouclier fiscal.
Il avait
commencé aussi par le bouclier fiscal.
Il aurait pas dû commencer par ça. C'est ça qui lui colle. Ouais. Parce que même le quoi qu'il en coûte, c'était.
Mais d'accord, il faut reconnaître quand même que les gens sont un peu ingrats parce qu'on n'a jamais autant aidé les Français face à l'inflation. Il n'y a pas un autre pays européen qui en a fait autant.
Et pendant le Covid.
Alors le Covid, en même temps, on n'était pas obligé de nous confiner tous. Je pense que ça aussi, si tu confines, il faut bien payer.
Tous les pays ont confiné.
Pas autant. On est le pays qui a connu le plus long couvre-feu de l'Europe.
Et le dénoncer était interdit.
On est les seuls à avoir une attestation qu'on remplissait nous-mêmes pour aller acheter du pain et ou aller faire pisser son chien.
Et t'avais pas le droit de dire que c'était pays en Europe l'a
fait. Je les ai gardés.
Oui.
Moi j'ai fait des sets de table.
Le premier confinement en Espagne. Non mais je suis d'accord avec toi. Je te soutiens. Mais par exemple le premier confinement en Espagne, ils n'avaient pas le droit de sortir.
Oui d'accord.
Pas le droit de sortir une heure.
Je parle après. Mais il y a toujours pire ailleurs. Le problème c'est qu'avec Macron, on pensait qu'on avait un techno défroqué qui allait renverser la table et enfin nous libérer de toutes tout ce qui pose problème, l'administration partout, etc. Et finalement, il a nommé là pour son deuxième quinquennat la techno Madame Borne. Il n'y a pas plus techno qu'elle. Et finalement, il est plus techno que.
Mais parce que c'est
technos.
La techno qui gouverne dans ce pays.
Il n'y a que des technos.
Mais c'était pas
sa promesse.
Dans
au départ.
Ce pays, c'est les technos. Regardez, moi, je pense que les Français aussi, la forme est très importante pour eux. Chirac, qu'on a eu quand même pendant 50, qui était quand même un président assez aimé des Français, il a rien fait. C'est quand même impressionnant. C'est quand même dingue. Sarkozy qui a été porté au nu. avec sa campagne a été immédiatement détestée. Et Hollande, n'en parlons pas. Donc, il y a aussi une question à se poser
de notre
rapport à ceux qui nous gouvernent.
Oui,
et eux aussi ont des questions à se poser.
Excuse-moi de te dire que si Macron. Il y a une très bonne chronique, d'ailleurs, je le signale aux auditeurs, de Serge Julie ce matin dans Libération. Je lis aussi la presse de gauche.
Qui permet de savoir qu'il est toujours en vie.
Et il y a une excellente.
Ça fait plaisir à savoir.
Ben, il a écrit une excellente chronique. Il est redevenu chroniqueur à Libé. Et sa chronique est très intéressante. Excusez-moi, c'était ma séquence Alain Duhamel. Oui. Je pense que. J'ai oublié du coup ce que je voulais dire.
Pardon. L'excellente chronique de Serge Julie dans Libération. Qu'est-ce qu'il raconte de beau?
Alors,
voilà. Merci, Consigny.
De rien, Charles.
On l'a perdu.
Il a complètement oublié ce qu'il voulait dire. Parce qu'on était parti de Chirac, qui n'a rien fait, avait 10 heures habitants, et t'as rebondi sur l'excellente chronique de Serge Julie dans Libération. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. Il aura retrouvé le fil de ses idées.
Déjà, il s'était autoproclamé Jupiter. Julie le stigmatise à raison en rappelant ce qu'est Jupiter, le dieu.
Même je crois qu'il l'a jamais prononcé
au-dessus
ça,
des hommes,
non,
etc.
Il
a voulu le faire savoir, la truc jupitérienne, la verticalité. Il le disait déjà quand il était que ministre, la verticalité, etc.
Je ne serais pas un président normal.
Voilà.
Il ne nomme
autour de lui comme ministre, comme conseiller, etc., que des ectoplasmes. À part quelques-uns, quand il est contraint et forcé par leur poids politique, par exemple Bruno Le Maire, Darmanin, qui ne sont pas des ectoplasmes, mais qui ont du poids politique. Et donc, il est obligé de les avoir dans son gouvernement, parce qu'il dit qu'il ne peut pas quand même avoir que des, je ne vais pas citer de noms, mais les autres ectoplasmes. Mais il exige d'eux quand même une soumission complète et totale. S'il rentre au gouvernement, attention, ça ne va pas moufter. Et résultat des courses, il n'y a plus de paratonnerre. Macron se retrouve seul à cristalliser sur lui toutes les exaspérations. Il aurait des grands ministres. Il aurait mis des gens avec une certaine surface, des épaules larges. Peut-être qu'il lui aurait fait un peu d'ombre, croit-il. C'est ça, en fait.
Comme Chirac avec De Villepin.
Oui, je suis désolé.
La fin de la récréation.
Chirac, il avait quand même quelques grands ministres. Ouais. Il avait des gens qui avaient une épaisseur. Je trouve que Emmanuel Macron se grandirait à nommer des plus fortes personnalités que les ectoplasmes macroniens qu'on voit toute la journée et dont on voit au travers aujourd'hui.
Le président de la République peut-il reprendre la main? On verra ce que nous en dit Jacques dans un instant. Il est photographe, il est du côté de l'Ardèche. Ça lui semble difficile que le président de la République puisse reprendre la main vu le climat social. On continue d'en discuter avec vous au 32-16.
RMC.
L'avant-midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story aujourd'hui. Zora Habitant, Charles Consigny, Thomas Porcher, c'est notre trio de GG. Vous discutez avec les grandes gueules, vous débattez avec nous au 32-16. Tel Jacques. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Est-ce qu'à votre avis, le président peut reprendre la main là, au regard de la situation? Dites-nous.
Eh bien, moi j'en appelle de tous mes voeux. D'abord, juste en préambule, je voudrais remercier cette personne qui est sur votre plateau, cette dame de la fonction publique.
Zora.
Oui, tout à fait. Qui est très consensuelle et qui est très apaisante, avec beaucoup d'objectivité. Ça, c'est la première chose.
Merci.
Alors, contrairement à moi et Charles, c'est ça?
Est-ce qu'il y a de l'ironie dans votre propos?
Non, je ne cherche pas.
Allez-y.
Le plateau du jour est assez consensuel, j'avoue. Voilà, mais simplement, j'en appelle de tous mes voeux, mais ça me semble très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, ceux qui manifestent, ils ne sont pas contre la retraite ou contre ceci, contre ça. Ils veulent renverser la table. Leur seul objectif, c'est de détruire ce gouvernement et surtout que Macron s'en aille. Donc, quoi qu'il fasse...
Il vient d'être élu.
Oui, mais ils n'ont pas été élus, si vous voulez. Il a été élu pour eux par défaut. D'ailleurs, on voit qu'une partie ne dit rien parce qu'elle attend son heure. Et cette partie-là, donc on peut les citer, la NUPES, dans laquelle s'est fourvoyé le Parti Socialiste, entre parenthèses, duquel je viens. Et donc, il est hors de question pour moi de cautionner une telle violence. Eux savent très bien que le pouvoir, ils ne l'auront pas. Donc, pour sauver la face, c'est détruire. C'est la seule chose. Et donc, ils iront jusqu'au bout, forcément. Et donc, à partir de là... Emmanuel Macron peut effectivement essayer d'apaiser, essayer de reprendre un petit peu le contrôle, mais je pense qu'il n'y arrivera pas Et je pense même que le quinquennat est terminé. Hein.
Et donc, ça va se terminer comment alors?
Oui, mais Jacques, là, moi, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que là, il y a eu 8 manifestations qui se sont
extrêmement. 9.
9. Ouais, non, mais il y en a eu 8 qui se sont vraiment très bien passées. Et là, qu'a fait, je veux dire, c'est des gens là qui manifestaient contre la réforme des retraites, qui arrivaient à te mettre 1 million de personnes dans la rue. C'est quand même pas mal. On n'avait jamais vu ça depuis 95 avec une une unité syndicale.
Bon, Sarkozy avait aussi 1 million de personnes dans la rue.
C'était des grosses c'est des grosses manifestations.
En général, il y avait 1 million de personnes quand c'est les retraites.
Avec une intersyndicale. Donc il y avait quand même plusieurs facteurs qui faisaient que.
Oui.
Et là, les gens, ils étaient contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Qu'est-ce qu'a fait Macron? Il a rien fait. Donc maintenant, c'est Macron qui a amené.
Il n'a rien fait, moi. Je pense qu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il a proposé avant d'être élu, en disant de tout bain, il faut faire quelque chose, et on va le faire. Donc, il a été quand même élu de façon, je suis passé il n'y a pas très très longtemps sur l'antenne, et je l'ai dit, élu de façon démocratique. Mmh. Démocratique.
Oui, mais quand, Jacques, d'accord, mais quand on fait une réforme, on le sait qu'il va être impopulaire, il ne faut pas faire des erreurs. Et là, ils ont accumulé les erreurs.
Oui.
Par exemple, dramatiser le 49-3. Le 49-3, ils pouvaient très bien dire, bah oui, effectivement, oui. On peut l'utiliser. Alors,
ils ont dit que c'est une réforme
veille,
de gauche.
La veille, bah, ils nous expliquaient que non, ils allaient tout faire pour avoir pas le 49-3. Donc, ils n'ont pas bien scellé leur accord avec la droite. Ouais. Il y a quand même une succession d'erreurs.
C'est pas lui qui est responsable là-dessus. C'est la droite républicaine qui est responsable.
Oui, mais il faut être deux pour faire un bon accord.
La droite a trahi sa pensée.
Non, la droite est divisée. Et c'est là l'erreur. Ils ont fait confiance à des gens divisés.
Oui, mais bon.
Mais il aurait dû la passer au vote. Puis on voyait, c'est tout.
Je suis d'accord. Alors, je partage ce qui vient d'être dit. Ça aurait dû être passé au vote.
Alors, elle a été rejetée.
Et c'est ça, la démocratie, c'est rejeté, c'est la vie, c'est la démocratie, c'est l'Assemblée. Ouais. Bah voilà.
Mais le 49-3, c'est aussi dans la démocratie. Ou alors, on estime que la Constitution de la Ve République n'est pas démocratique.
47-1.
C'est ce qu'a dit Serge Julie ce matin dans l'IB, justement.
Oui, mais Serge Julie a toujours été contre la Ve République.
Il interroge cette Constitution
comme une partie de la gauche, comme Mélenchon. C'est la gauche qui a été plus utilisée dans son histoire, le 49-3.
Bien sûr, mais c'est pas, justement, c'est pour ça qu'il faut.
Et même François Hollande avec une majorité absolue.
Si la gauche l'a beaucoup dit. Mais bien sûr, mais c'est pour ça je veux dire, Valls, quand il s'est présenté. Quand Valls s'est présenté à la primaire, alors qu'il avait utilisé le 49-3, il l'a dit. Il a dit, moi, si je gagne, je retirerai le 49-3. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'interroger aussi. C'est pas parce que la gauche l'a plus utilisé. C'est là, tu fais un 47-1 pour limiter les débats et un 49-3 pour passer la loi. Il y a un problème dans l'utilisation de la Constitution. La cohésion globale du texte.
Moi, je défends pas la réforme, mais la réforme était dans son programme. Il a été réélu.
D'accord, mais qu'il n'a pas voté. Mais qu'il n'a pas voté.
Non, mais il y a une question intéressante, c'est qu'on dit que le président était élu de façon démocratique. Et tout le monde fait l'amour en disant, oui, enfin, c'est une démocratie tellement malade que finalement, ça ressemble plus à une démocratie. Et en même temps, on dit, on supprime le 49-3 parce que justement du point de vue de la démocratie il faut laisser les réformes vivre de manière démocratique à 100%. Mais je vous explique, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est dans une impasse, parce que si ce pays ne peut pas se réformer, et de toute façon ce pays a un problème de fond, une lame de fond idéologique, où on est fracturé à la fois sur des questions sociétales, identitaires, culturelles. Et alors, je vous parle même pas des réformes sur l'immigration qui vont arriver, etc. C'est au-delà de nos hommes politiques, c'est au-delà même de ces histoires de 49-3. Oui. C'est-à-dire que même mais si on va jusqu'au bout de ton raisonnement, et Thomas, t'as raison, tu dis on supprime le 49-3. Et ils retoquent, les Français retoquent. Bah, de toute façon, les Français retoqueront toujours. Tu donnes 10 000 euros à un restaurateur pendant le Covid, il prend. Et c'est le même que tu retrouves après dire je suis contre ça, etc. Nous, citoyens français, nous ne sommes pas politisés. Tu demandes aux gens, 75% ne lisent pas les réformes et 75% ne s'informent pas.
On met à part la période Covid où là, il y a eu un commandement, très vertical.
T'as déjà vu ce pays content quelque part à un moment donné? Jamais.
Macron avait une majorité absolue. La loi travail est passée tranquillement. Il y a plein de réformes. On appelait même les députés des Playmobil qui votaient tout. Ben là, ça passait. L'Assemblée jouait son rôle.
Mais parce qu'il avait la majorité absolue.
Oui, ben voilà. Donc là, ça jouait son rôle, comme quand la gauche avait la majorité absolue.
Oui, bien sûr.
Là, il a une majorité relative. Donc il faut convaincre. C'est ce qu'il a dit. Si tu convaincs et tu fais passer au vote, ça ne passe pas.
Sauf que là, la question qu'on pose, c'est Emmanuel Macron peut-il reprendre la main? Mais reprendre la main, pourquoi faire? Non mais tu comprends,
mais
là, parce que de toute façon
arrive.
Sur la réforme,
il est obligé.
Sur la réforme,
continuer à gouverner, parce qu'il il est là pour 4 ans. Quoi.
Mais oui.
D'accord. Tout est gelé dans les ministères. Hein.
Mais ils font plus rien.
Tout le monde attend.
Oui, faut plus bouger là. Tout même lui, Macron suite, bouge pas trop. Il le dit, que... il va pas au stade, il va pas en Bretagne, oui, il annule beaucoup de.
Alors si personne on le pousse à faire des déplacements en province, parce que c'est un truc, ouais. C'est qu'on l'a beaucoup vu à l'étranger. Il a pas fait un seul déplacement
parce que
conséquent
monsieur
en province.
Veut le prix Nobel de la paix, Olivier, parce que monsieur veut le prix Nobel.
Non,
de
mais
la paix.
Par contre,
moi j'aimerais bien le défendre si tu veux, Macron. Tu vois, j'aimerais le défendre. Non, mais théoriquement, je veux dire, je suis avocat. Les avocats sont les compagnons des chutes. J'aimerais le m'interposer entre lui et cette foule qui le déteste, qui le conspue, etc. Mais en même temps, il y a toujours un truc qui va tellement me déplaire que dans ce pays à feu et à sang, dans la situation actuelle de la France, en fait, lui, ce qui le préoccupe, on a pu le lire partout, c'est même pas contesté par les sources élyséennes qui s'expriment dans les articles. Son sujet soit d'obtenir pour lui-même le prix Nobel de la paix parce que ça ferait chic, parce que ça ferait bien. Bah, c'est une réalité, Zora.
Mais il va en Chine début avril.
C'est une réalité. Là, ça fait des mois qu'il est en campagne pour avoir le prix Nobel de la paix.
Il est beaucoup
passé
de temps à l'étranger.
Par ailleurs, est incapable de réformer l'IGPN, de faire en sorte que la police se comporte correctement, sans bavure, ou qu'en tout cas les bavures soient réprimées. Il va chercher le prix Nobel de la paix. Bah, je suis désolé, ça montre quand même un tel orgueil, un tel ego. C'est pas possible. C'est lui-même alors, qui doit faire un cheminement intellectuel, humain, pour avancer.
On va en discuter avec Fessal, un fidèle des GG qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Fessal.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'il peut reprendre la main le président de la République ou pas?
Bah, écoutez, il peut pas prendre la main parce qu'il l'a jamais eu. Ouais, je m'explique. Tout d'abord, je voudrais faire un léger aparté concernant la Constitution. Je ne supporte pas qu'on remette en question la Constitution.
Ah bon.
Tout simplement parce que cette Constitution, depuis 58, elle a permis à ce pays d'éviter les soubresauts que beaucoup d'autres pays ont eus. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le 49-3, ça fait partie des outils de la Constitution. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les gens ont tendance à oublier l'histoire. D'accord. Maintenant, j'en viens à M. Macron. En démarrant par M. Sarkozy, j'ai jamais été un sarkozyste. Mais ce que je reconnais à ce monsieur, c'est que même en ayant des idées économiques libérales, ultralibérales, etc., il a géré une mairie. Il a été au Conseil général. Donc les corps intermédiaires, il les connaissait.
Bien sûr.
Il était capable de parler avec eux. Macron, son pédigré, c'est quoi? Brillantes études, fils de bonne famille. Son premier job, c'est Rothschild. Il ne connaît... Je suis un ancien chef d'entreprise à la retraite. Hein, maintenant, à la retraite depuis 3 ans. Et je me rends bien compte de ça. Il ne sait pas ce que c'est que de gérer une entreprise. Il ne sait pas ce que gérer une trésorerie veut dire. Du personnel, il ne sait pas ce que c'est, etc., etc. Il a été bombardé président de la République par défaut, bien évidemment. Et j'ai même voté pour lui, pour vous dire. Mais le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'il a vécu dans un monde où le sens du bien public a disparu.
Oui, c'est vrai.
Disparu.
Il
ne raisonne que comme un égoïste. Comment voulez-vous faire confiance en une personne qui est votre président de la République? Et Dieu sait si j'ai quelque chose, je respecte cette fonction, mais comment voulez-vous faire confiance en une personne qui, pendant les événements qu'on connaît actuellement, reçoit Jeff Bezos, qui est le truand fiscal le plus important qui ait jamais connu la France, hein, pour lui remettre la Légion d'honneur?
Mais pas très malin.
C'était pas très malin du tout.
Mais oui, mais effectivement. Vous comprenez,
oui, mais vous voyez, il y a un petit peu de Sarkozy. Bah, Fessal, vous faites
non.
une. Moi, je trouve qu'il y a. Il y a un petit peu de Sarkozy dans Macron, dans le côté provocateur.
Oui, mais Sarkozy assumait. Il faisait pas semblant d'être et de droite et de gauche. C'est une réforme de gauche, etc.
Et puis là, j'ajouterais un truc sur Sarkozy, et il a eu raison, Fessal, de dire ça. C'est qu'avant, il y avait un grand parti. Et t'avais des élus, t'avais des maires, etc. Il y avait des contre-feux. Là,
Renaissance,
voilà.
Il y a très peu d'élus locaux.
Et donc, il n'y a pas de remontée de terrain à part les députés qui doivent tout à Macron. Alors que Sarkozy, t'es obligé de quand même tenir des rapports de force.
Oui, mais voyez, Sarkozy était aussi très détesté.
Naïvement, je posais la question en disant, peut-il reprendre la main et pourquoi faire? Alors, Zora m'a dit, mais il y a d'autres réformes à venir. Sauf que,
Pourquoi est-ce que le
pays va continuer à...
D'accord, mais pourquoi est-ce que ceux avec qui tu veux faire les réformes, ils te feraient confiance?
Oui, non, mais c'est tu ça. Non, mais de toute façon, c'est simple.
Ils s'estiment qu'ils se sont fait flouer, qu'ils se sont fait blouser.
C'est le labyrinthe.
Et maintenant,
là,
on est presque, tu sais, un peu à genoux avec, ils sont presque un peu à genoux avec Madame Borne, les mains jointes à dire à Laurent Berger, faut revenir nous parler. Regardez, on a besoin de vous pour sortir de, pour sortir de... Rien que cette attitude-là, non, si tu plus, veux, ça montre plus, que t'es plus, pas en passe de reprendre la main.
Je pense que
pour faire quoi? Des réformes sur la loi de travail?
Les partenaires sociaux ont l'impression
de s'être fait baiser une fois, pardon pour l'expression. J'ai dit, les gars, c'est bon, une fois,
sachant,
on n'est pas vicieux au point de remettre le couvert une deuxième, quoi, si tu veux.
Sachant que sous Sarkozy et sous Hollande, la réforme des retraites avait déjà bien avancé, elle avait été votée, etc. Je veux dire, c'était pas la peine pour l'instant de rajouter les 60, enfin, de mettre cette barre et d'avancer. Et puis en plus, il a laissé tomber la retraite par capitalisation, son projet initial.
La retraite à point, pardon.
Et du coup, franchement, là, je ne voyais pas l'intérêt. De toute manière...
C'est fait.
Voilà, c'est fait. Mais c'est quand même...
Pourquoi il ne gouverne pas avec la droite, Charles? Pourquoi, finalement, en fait, puisqu'il n'a pas de majorité absolue, et il a demandé à Borne d'élargir sa majorité. On ne voit pas une partie de la NUPES se détacher, puisque Olivier Faure est toujours associé à Mélenchon, donc il n'ira pas gouverner avec Macron. On ne voit pas les écolos non plus, donc son seul... le soutien qu'il peut avoir, c'est les députés LR, et il passe un accord de gouvernement, comme dans toutes les majorités parlementaires, c'est comme ça ailleurs,
mais
autour
ça n'est
de
pas
nous.
Leur intérêt. Je vois bien que certains sont tentés par ça, mais si,
de droite.
Si j'étais...
Il a commencé avec la retraite à 64 ans.
Si j'étais eux, je refuserais de céder aux sirènes macroniennes. À mon sens, la Macronie aujourd'hui, c'est un Titanic. Elle va mourir de sa belle mort, d'une longue agonie qui va durer peut-être 4 ans. Mais peu importe.
Donc, il va rien se passer
pendant
4
ans. Moi, si j'étais les Républicains, je ne rejoindrais certainement pas un accord de gouvernement. Je pense qu'il va faire leur boulot de leur côté, changer de nom, écrire un programme, aller à la rencontre des Français.
Votre photographe avait raison, le quinquennat
préparé 2027.
Est-ce que le président peut reprendre la main? Oui. Ou non, c'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. On va voir. Moi, je pense qu'on est au-delà des 80%, non? On va voir.
Bien vu.
83%.
On connaît bien
le public des GG. Ouais.